touch you, you'll be lucky too.
Pas besoin de prendre à nous pour que les phoniques aient nous de manger. Chapeau, c'est du coucou, oui, c'est madame. Chapeau, c'est du coucou. Dans le pays, il a fait chaud, oui, c'est madame, chapeau, c'est du coucou. Pour la quitter la ville, pour venir ici même, et prendre ou la peine, et ça nous a fait chaud. Venez-moi saisir, venez-moi coucou, chapeau saisi coucou, achetez-nous aujourd'hui, chapeau quand il fait chaud, misez madame, allez d'être bonne et pas si on a chapeau, on coule n'a des l'eau. Monsieur madame, pour rafraîchir monsieur madame. Prenez sur la tête et nous chanter à cette bon marché. Pas besoin de prendre à nous pour piquette clé. Bon idée nous manger.
Panier sur la tête ni chanter, c'était Alain Peters qui... Feu Alain Peters qui nous venait de La Réunion nous chanter cette chanson qui finalement nous explique que c'est pas plus mal, c'est plus rentable peut-être d'avoir un panier sur la tête plutôt qu'un chapeau. Panier sur la tête ni chanter. Et pourquoi cette chanson pour la 175e édition des Petits Tas dans le Mou? Parce que selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la sainte Arsène. Et Arsène, c'est le patron des vanniers. Alors encore une fois, le Père Ubu se dissocie du calendrier catholique et romain, puisque la sainte Arsène, selon ce calendrier dernièrement cité, c'est le 19 juillet. Mais non, il a décidé, Ubu avec Jarry, que ce serait le 30 octobre. Eh bien, nous allons fêter la sainte Arsène. Mais qui était Arsène ? Arsène, c'était un Romain né en 354 de notre ère. Et comme il était converti au catholicisme, évidemment, eh bien, il rêvait de désert, de s'isoler, avec un panier sous la tête. Et il est parti à Sété, c'est en Égypte, ça existe toujours. Mais c'était l'époque, on est au 4e siècle, où les Vandales étaient en train d'envahir l'Égypte. Et donc, il fut chassé par les Vandales en disant « Qu'est-ce que c'est que ta religion, là ? Qu'est-ce que c'est ton panier sous la tête ?» Alors, il a reculé, et puis il s'est trouvé près de Memphis, non pas Memphis aux États-Unis, hein. Le vrai Memphis, et il s'est mis à vendre des corbeilles pour vivre sa solitude. Et en cela, il a suivi le modèle de Moïse, n'est-ce pas ? Parce qu'à un moment, on flotte sur l'osier, et puis ensuite, on tresse des corbeilles. Eh bien, c'est ce qu'a fait Arsène. Alors aujourd'hui, c'est la fête des vanniers. Et on va essayer aujourd'hui de vous montrer que la vie privée n'est jamais tressée d'aventure. Non. Pour cela, il faut la vie sociale. Rubrique Alpha, des chauves se battent pour un peigne d'ivoire. Ne faites pas la guerre, faites des affaires. 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 Je m'appelle Arsène. Ne faites pas la guerre, faites des affaires. Et je suis venu vous dire qu'il est urgent de désamorcer le côté militaire qu'on nous accole, nous qui faisons des affaires et pas la guerre. Stratégie, conquête des marchés. Vous entendez cela tout le temps sur les ondes concurrentes. Moi, Arsène, j'appuie sur l'aventure, la médiumnité. Nous, les patrons, nous sentons les besoins et nous les soulageons en premier. Ne faites pas la guerre, faites des affaires. Voilà l'ambition, voilà la vocation du patron. Je ne suis devenu patron qu'à cette fin. Soulager les besoins. J'ai une formation d'ingénieur, mais ça ne me suffisait pas. J'ai été président d'association, président de ci, de ça, mais ça ne me suffisait pas non plus. Parce que être patron, c'est se saisir de l'auréole résolument. Se saisir de l'auréole, c'est-à-dire être fidèle à l'histoire. Et je vais vous rappeler un truc. Que signifiait Diogène quand il se baladait en plein jour, sa lanterne allumée et réclamant « un homme, où y a-t-il un homme ?» Il faisait comme nous. Il attendait des actes et non des beaux discours. On nous traite d'égoïstes et d'ambitieux. Mais qu'y a-t-il derrière ? La peur de l'initiative. Ces gens ne parlent qu'à eux-mêmes. Eh, c'est pas par miracle que nous générons du profit. Tout ce qu'on touche ne se transforme pas en or. Nous ne sommes pas non plus nés coiffés. Il existait naguère des patrons de naissance. C'était d'ailleurs pas les pires. Ils faisaient preuve de tempérament et d'inventivité. Ils étaient certes durs et caractériels. Au fond, ils étaient spécialistes. Les Bugatti, les Schneider, les Krupp. Il y avait une sorte de génie chez ces entrepreneurs. Mais ils se souciaient moins du marché, de la rentabilité. Même s'ils vendaient peu, ils poursuivaient leur aventure. Je les considère comme des héros. On n'était pas à l'heure des trusts ni des cartels. Quand on pense à Dionbuc Bouton, ah, ça vous évoque encore quelque chose ? Ses premières voitures, les Dion Bouton, ben... C'était un aventurier, Dion Bouton. Maintenant, au poste de direction, le génie est un handicap. Ce qu'on nous demande, c'est d'être normaux, complets, mais normaux. Compétents en de nombreux domaines, technique, management, finance, vente, études d'impact, relationship, psychologie même. Nous passons sans transition d'un sujet à un autre. Nous nous donnons totalement, mais jusqu'à l'épuisement. Et surtout, il faut se mettre à la hauteur de l'interlocuteur, tout en restant le décideur. Faites des affaires, et pas la guerre. Rien de blin... Rien de bien glorieux, en somme, rien de génial dans nos métiers. Moi, Arsène, on m'a confié une responsabilité, j'y fais face. J'assume de tout mon être. La seule satisfaction est d'avoir agi correctement en fonction de la conjoncture. Finalement, on est des artisans. Comme un vannier. Pas de quoi allumer des flambeaux. Les coups de colère des salariés sont toujours disproportionnés. Nous ne tenons pas les rênes, nous ne sommes pas tout-puissants. Ceux qui portaient des couronnes de laurier se croyaient protégés de la foudre par ce subterfuge, ça ne prend plus. Tout couvert de laurier, craignez encore la foudre, disait le Cid. Droite ou gauche, qu'importe vos convictions. Ça aussi, c'est de la mythologie. Le patron, d'où qu'il vienne, s'en tient à un comportement moyen. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y a une règle du jeu, point barre. Une règle du jeu. Sinon, c'est la société tout entière qui doit changer. Changer les règles du jeu. Il n'y a pas 36 manières de jouer. Il n'y en a qu'une. On joue bien, on joue mal, point barre. Au fond, tout employé est son propre patron. S'il s'est planté, il doit réparer, tout seul. C'est important, cette autonomie. Il se nourrit par son salaire, par son indépendance. Tout patron moderne a saisi ça. Je descends, tu montes, je descends, tu montes. Voilà le fond de chaque échange. Et de monter ou de descendre, ça tient au choix de chaque acteur. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On est en droit de tout lâcher. Nous sommes des millions de patrons. Nous sommes tous, sans exception, en possession d'un certain nombre de moyens qu'on mette en œuvre ou pas. À chaque instant, il y a des décisions à prendre, avec dans le viseur l'équilibre économique. Et puis, ça ne manque pas de conseillers à tous les échelons. Même pendant les jours de repos, nous côtoyons des assistances, des gens qui vous expliquent comment ils s'en sont sortis. Moi, Arsène, j'ai beaucoup appris en écoutant les paysans parler du remembrement ou m'expliquer leurs problèmes de tracteur. Les commerçants, et pareil, avec leur stratégie de vente et tout ça, les têtes de gondole. Tous, un moment, ont tenté des coups, ont modifié leur position, ont essayé des choses, des gammes de produits, des promotions, des campagnes publicitaires. Ils ont décidé, à leur risque et péril, ils ont créé tel ou tel poste, sans savoir si ça leur rapporterait. Voilà. Moi, Arsène, je suis venu aujourd'hui sur Radio Canu vous parler de cette réalité à laquelle se conforment et les gros et les petits. Faites pas la guerre, faites des affaires. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent détacher votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel quasiment estival de Lyon aujourd'hui. Et si vous ne voyez pas la navette spéciale de Mr. Milouz et de Miss Cosmos, c'est que là, il faut vous faire opérer de la cataracte.
Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, on est venu aujourd'hui, alors c'était vraiment en douceur cet atterrissage, parce que là, vraiment, votre atmosphère est super dégagée aujourd'hui. Et on est venu justement pour vous donner un conseil à toutes et à tous, c'est qu'il ne faut pas négliger la voiture de fonction. C'est important hein, sur le météorite, la voiture de fonction. D'abord, on voulait vous dire qu'on a constaté au moyen de notre télescope que l'intelligence artificielle n'a plus son ADN à Stanford. Les machines qui créent des concepts désertent l'échantillon Californie par les temps qui courent. Oui.
Ceci est un chat. Ceci est un chat. Ceci est un chat.
Mais ça, c'est ce qu'on entend du fragment Chine jusqu'à notre constellation des Pénates, parce que c'est celui qui dit
« Ceci est un chat, ceci est un chat ».
Et c'est un bidule en zinc qui reconnaît un chat qu'on diffuse sur YouTube. Alors après, on lui montre un humain et il dit
« Ceci est un humain, ceci est un humain ».
Ceci, on lui montre une voiture, et ceci est une voiture, ceci est une voiture, ceci est, on lui montre un ver de terre, ceci est un ver de terre, ceci est un ver de terre, c'est un ver de terre. Et plus tard, c'est par reconnaissance vocale que vous ouvrirez vos portes par chez vous. Mais le produit sera chinois. Ne faites pas la tête, hein, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Baidu. Retenez ce nom. Tous les chercheurs de Google, de Microsoft et de Facebook sont en train de faire leur bagage pour l'empire du milieu. Baidu. Et d'où vient l'erreur, hein? Pour vous, hein, qui vous dites occidentaux, ben, l'erreur, c'est de rogner sur la voiture de fonction. C'est un élément constitutif de la rémunération, la voiture de fonction. D'abord, cette clientèle est jeune et dynamique. Et puis, la voiture de fonction exprime votre statut social sur le météorite. N'est-ce pas, Mr. Milouz?
Ceci est une voiture de fonction. Ceci est un drone.
Si vous y renoncez, tout le monde migrera vers le fragment chinois.
Ceci est un imbécile. Ceci est Arsène.
Les marques allemandes sont les préférées. Si vous voulez un conseil, Capo proéminent, Pro majestueuse, des chromes partout et de teinte noire, s'il vous plaît. Ça pose tout de suite sur le météorite. Certaines firmes misent tout sur la voiture de fonction. On le voit bien de notre constellation des pénates au moyen de notre télescope avec Mr. Milouz. La voiture, contrairement à la navette spéciale, est un objet de représentation. Poursuivons les conseils. Mr. Milouz, un conseil? Un style athlétique, extraverti dans la forme. 40% de la nouvelle Ford Mondeo a été vendue aux entreprises. Prenez au modèle, chères auditrices et chers auditeurs. Calandre copié sur l'Aston Martin, avec un nez plus conséquent et des flancs plus musclés. Allez, Mr. Milouz, un effort d'enthousiasme. Waouh! Touchus! Ça marche pas tous les coups. Le salaire s'affiche sur la portière. C'est une des phrases de chez Monsieur Ford. Le salaire s'affiche sur la portière. On poursuit. Ne lésinez pas sur l'équipement high-tech, le confort et la sécurité. Faut emballer, sans risque majeur, hein? N'est-ce pas, Mr. Milouz? Emballer, c'est peser, sans risque majeur. Suspensions adaptatives, assistance au stationnement, alerte pré-collision, système de détection des piétons, airbag à l'arrière, bien sûr, siège massant, climatisation répondante à la voix. Emballé sans risque majeur. Tout pour plaire au cadre méritant et oser sortir des traditions. Voilà la recette. Oui. Les jeunes veulent du nerveux. Ils rêvent d'aluminium brossé, de carbone, de finition laquée. Et il faut faire passer la taxe sur les véhicules de société. Il faut briser la frilosité des entreprises. Et puis, Et puis, il y a des clients en difficulté. Voilà le problème. Il faut savoir rester modeste dans l'apparence quand on se présente à eux qui sont en situation de dette. Et donc, tout est affaire de mesure dans la voiture de fonction. Voilà le problème. Sur le météorite, tous pèsent. Si l'on veut conserver l'élite dans ses rangs et qu'elle ne déserte pas jusqu'au fragment Chine, tout se pèse pour conserver l'élite. Pour conserver l'élite. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites, Mr. Milouz ? Qu'est-ce qu'elle a, la navette spéciale ? Vous voulez y mettre de l'aluminium ? Ah non, du laqué. Ah non. On va pas faire ça. Elle a déjà un style athlétique. Hein. Déjà chaque semaine hebdomadaire, elle fait l'aller-retour jusqu'à la constellation des plus. Quoi, elle est moche la navette spéciale. On va quand même essayer de la mettre en marche. Hein, pour rejoindre la constellation des pénates. Quoi, elle est moche. Elle est pas si moche. Elle est profilée, notre navette spéciale. Elle est profilée, hein. Bah oui, elle a pas d'intelligence artificielle, mais elle est profilée. De revenir la prochaine semaine hebdomadaire, si. Bah, peut-être qu'on lui fera un petit coup de propre une fois arrivé. Oh, d'accord, Mr. Milou. Non,
swinging so hard. Look at my face. Look what your charm has done to me. Ain't no sugar water run through my veins. I'm telling you. We'll be right back.
canut, la plus belle des radios. Vous êtes toujours sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou et nous fêtons aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Arsène Lupin, la Sainte Arsène. Patron des vanniers. Rubrique fiasco. Il n'y a pas que sur Terre les petits enfants de verre. Il y a aussi des fois les petits enfants de bois. Avant dernier épisode. Nous allons nous orienter vers le grand théâtre des marionnettes dirigé par Hébé, la dictatrice des pantins de bois. Celle que Fiasco et son créateur Alberto voudraient voir mettre à bas. Car il s'agit d'un trafic d'esclaves faisant rire les enfants. Mais les pantins, ils sont très malheureux, bien qu'ils interprètent parfaitement leur rôle. Et voici par exemple, sur la scène, Sancho. Sancho, c'est une calebasse que fait parler un ventriloque. La calebasse Sancho pendillait à côté du ventriloque et le ventriloque commença le prologue du spectacle.
Pour nous, saltimbanque, et pour la bande aux mimes qui va suivre, ici, public, nous réclamons votre clémence. Non seulement votre clémence, mais une attention patiente.
Est-ce qu'il blague ? Susurra Alberto dans le public, à son pantin tout neuf. Fiasco.
C'est le prologue ?
Et Fiasco était sérieux comme un maquignon.
Ah d'accord, alors ce ne sera pas long, hein ?
Aussi long qu'une amourette.
Et voici que Polichinelle arrive sur scène.
Quinze lieues et trente rencontres marquent la façon dont on prend possession d'un domaine,
disait Polichinelle.
Les lunes succèdent au soleil selon l'incertain chronomètre. Seul l'amour et parfois l'affection suspendent la tournée des aiguilles. Le sacré abolit toutes les platitudes.
En face de lui, il y avait Colombine.
Alors ma calculette ne compte que tes absences.
ou bien si par malheur t'incombe une maladie, que tu sois triste ou méconnaissable, l'inquiétude me ronge, je ne suis plus la même. L'empathie d'une fille ne se met pas en bouteille, encore moins que Paris. Ou elle est nulle, ou elle est toute envahie. J'ai dit, et je ne le répéterai pas, Polichinelle, mes craintes sont induites, la vague est un repli pour mieux sceller la pierre.
Et Polichinelle.
Mais moi, il faut que je démarre. Mes facultés actives sont lasses de faire carême, Colombine. Le monde est beau, tu y seras honoré, chérie. Un homme bon viendra et te fera sienne.
Tu es Colombine.
Veuillez m'épargner tout le reste.
Ne prêche pas le haut mal, Polichinelle. Maudit soit l'homme que tu anticipes, tout autant que les sentiments que je pourrais lui dispenser. Nul ne s'éprend du second sans tuer le premier.
Bon, si on allait au bistrot en attendant que ça se passe là, ce spectacle, non ? C'est Alberto qui proposait ça à son pantin de bois, Fiasco.
Je crains qu'au fond... Au fond de toi, mon destin t'indiffère. Imagines-tu sans peine un rival m'embrasser ?
Bien sûr, c'est Colombine qui parle à Polichinelle. Polichinelle.
Je te sens vaine d'authenticité. Il faut si peu de choses pour briser un vœu. On dit « je veux » et ce sera toujours. Oh, ma Colombine, on ne fait en cela que saluer sa propre mémoire. C'est violente et sincère, mais ça ne fait qu'une histoire. Le fruit vert tient à l'arbre, une fois mûr, passe la douce brise, il se détache. Oh, qu'est-ce qu'une dette ? Qu'est-ce qu'un souvenir ? Une passion ? Terminé, cesse ses exigences. Oh, la maison s'écroule, ne reste que des ruines. Colombine, cela ressemble à celle d'à côté. Tu sais, où on n'a rien construit. Quand on est triste, on pleure. Quand on voit bien, on rit. Il est des gaietés sombres, des malheurs vivifiants. Oh. Un monde s'élimine, un autre vient. Ceci n'a rien d'étrange. La fortune d'elle-même annule nos décrets. Un riche perd-il ses biens, ses courtisans s'envolent. Un gueux touche le gros lot, au loto. Ses amis n'en sont plus. L'amour aussi dépend de la fortune, quel que sens qu'on y mette. Quand les proches m'ennuient, c'est là qu'ils m'ensorcellent. Quand je suis en fleurs, ceux qui n'ont rien me fuient, je m'égare, ma douceur. Mon propos est dans les mots qui suivent. Nos besoins, nos envies courent en sens contraire. Nos projets sont toujours renversés. Nous pensons quelque chose, cependant ces pensées nous mèneront autre part. Tu as dit, Colombine, que d'un autre tu ne t'éprendrais pas. Oh, meurs ta première passade et cette idée mourra.
Et Colombine, c'était long ce spectacle.
Autant me nourrir de vermine, autant m'initier troglodyte, autant ne plus goûter les plaisirs d'ici-bas, autant changer mes joies en celles de Dracula. Autant me faire une nonne, ne croyons plus en rien, je veux déchirer mon visage, ne séduire plus personne, que personne ne m'approche.
Oh. Et Fiasco.
Voyez-vous ça ? Et ça s'appelle un spectacle pour les enfants.
Polichinelle.
Ce que tu dis est beau. Je dois y réfléchir. Je me suis embrouillé. Et si j'allais dormir ?
Et là, il tombe de sommeil sur scène.
Colombine, qui est de porte-conseil des pitons de Sornette.
Fiasco. Et ça s'arrête là, le spectacle?
C'est qui a écrit cette immondice?
Derrière, volumineuse. Qui que c'est qui va remettre ma table d'équerre? J'avais besoin d'un bout de bas. Je le reconnais là. Il s'appelle Fiasco. Il est dans le public. Il est dans le public. Dans le public. Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique Baba Yaka, celle que les paysagistes de Lozier appellent « Quoi qu'il faut semer dans ton jardin secret ». Fleur de nuit avait compris que le sexe ne s'arrête pas à sa signification immédiate. Elle a découvert une curieuse technique colombienne. Vous vous enturbanez la taille avec une bonne longueur de film alimentaire pour, même vêtu, faire surgir une gamme étendue de sous-entendus. On ne saurait rien prononcer en vous voyant, mais il est certain que ceux qui vous observent perçoivent que dans la zone se produit une chimie déconcertante. Je vous assure qu'avec ce moyen, vous provoquez des lapsus autour de vous parce que vous en êtes un, parce que vous en êtes une. Les actes manqués, les glissements de pensée se succèdent. La communication se brouille sous tous ses aspects et vous, vous détectez aussitôt le partenaire adéquat, celui qui s'est lancé dans les bonnes analogies sans en prendre conscience. Oui, il y a mise en système de situations passées, un phénomène de capillarité réciproque. C'est du vécu, je vous dis, elle l'a vécu. Et même si, je le reconnais, pour une bonne part, on est dans l'intelligible. Inintelligible. C'est obscur. C'est délicieux. Des amalgames autour du galbe de rêve. Chacun retourne à ses modèles. Je glisse là une phrase de Jean Harpe. Jamais le vide ne sera nu. Le souvenir le couvre à corps et à cri. Et Fleur de Nuit, dans son film alimentaire, se sent superbe, couverte de ses lambeaux de mémoire, rattrapée par des événements inconnus à la limite de la stupeur. Sans passage à l'acte, bien qu'il ait fallu deux complices pour serrer le corset autour du bas-ventre. Et c'est ainsi qu'elle a compris les métaphores, les figures de style commises par les poètes. Et aussi certaines expressions populaires qui s'incarnent là de façon sidérante, tandis qu'à ses hanches et à ses cuisses, la chaleur devient insupportable. Elle est comme propulsée vers l'indicible en bravant le tabou. Elle attend qu'on lâche les chiens, d'autant que la transpiration fait naturellement glisser la gaine au bout d'une heure. Essayez, essayez, auditrice, auditeur, de vous faire un coup paysagiste de votre jardin secret. Vous ne tarderez pas à ambitionner pour lui d'être parc d'attractions. C'est un cliché, je sais. Mais parfois, on aime revenir et flâner autour des clichés sans jamais rendre dupes les visiteurs. On nous a appris que le beau touche à l'universel. Et que l'universel a partie liée avec la nature. Et cela se rapporte à tous les objets. La forme, la fin, en dehors de toute pratique, de tout concept. Le beau est une chose donnée, indépendante de la quête personnelle, de la propagande. La satisfaction qu'il procure, encore une fois, est universelle. Le beau n'a rien à voir avec le goût. Rien à voir avec la subjectivité, c'est une moyenne en quelque sorte, le beau, une réduction algébrique, néanmoins intuitive. Il y a le genre, et puis les membres, et les apparentés à ce genre. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez dit ça? Il s'agit d'un jugement. Et un jugement qui se réclame d'une certaine pureté. C'est beau. Quel est le but? Quel est le but quand on dit « c'est beau » S'il y a un but, l'objet n'est pas en soi. Il s'agit d'un symbole moral. Le génial est le forban du beau. L'entendement s'est placé sous la tutelle de l'imagination. Je vous propose une phrase de Rainer Maria Rilke. « Le beau n'est rien que le commencement du terrible ». Et là, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils sont malheureux, ceux qui sont dans la norme. Donc de nouveau la culture, donc de nouveau le consensus, donc pardon, de sérieuses brides sur l'échine de l'imagination. Le canasson imagination est dressé pour devenir étalon. Et s'instituent les règles de l'art, greffon de la connaissance esthétique. Nul n'en réchappe, riche ou pauvre, on chasse le terrible de la sphère de la beauté. Malheur. On se soigne de la terra incognita par la cartographie. La répression peut se donner libre cours contre les pirates de l'esthétique. regard. Je dois avouer que Fleur de Nuit a joué le jeu lorsqu'elle s'est aperçue que ses seins manquaient de fermeté. Elle était tombée sur un magazine belge. « Pour un buste triomphal, avez-vous songé au gel ?» C'était un soutien-gorge en plastique. Vous le logez dans le congélateur jusqu'à ce que les bonnets se figent. Vous l'enfilez 5 minutes par jour et sous l'action du froid sur la chair, vous serez la première surprise du résultat. Les seins ne seront plus les mêmes. Des seins, ils seront beaux, rehaussés. Mais voilà. Elle a abusé du produit. Elle a fait plus que 5 minutes. Et longtemps, Fleur de Nuit s'est calfeutrée à cause des douloureuses engelures dues à l'exposition trop prolongée au remède miracle.
Je travaille dans la beauté chez Monsieur Romain. Je suis masseur spécialisé dans les reins. Pour les reins, j'ai une de ses renommées. Pas de velours, je frôle à peine sans toucher. Il paraît que j'ai des doigts de feu. Quand j'ai un client entre les mains, peut pas s'en aller. Frotti, frotta, glissi, glissa, je sais masser. Pour masser, j'ai... Pour masser, c'est des doigts de fée. Oh, il m'aime bien, monsieur Romain. Il me dit toujours, vous massez avec foi, ma sœur. Oh, oh. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, toute façon, ça plaît à Jean-Loup. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux, 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 jaloux. Ayant une fuite au tuyau de la salle de bain, avec Jean-Loup, on a appelé notre voisin. Il est plombier, mais d'une grossièreté. En rentrant, il nous a dit salut les poupées. Ils sont des obscénités. Fumé craché partout, Jean-Loup lui fit remarquer. Frotti, frotta, glissi, glissa, nous a boxé. Je me suis retrouvé la tête coincée dans le bidet. Oh, quel méchant alors. J'avais mes deux petits poings cripsés. S'ils avaient pu, je l'aurais griffé. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, toute façon ça plaît à Jean-Loup. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, que je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux, 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 jaloux. Pour mes costumes, j'ai un petit tailleur épatant. Ses essayages, c'est du régal, il dure longtemps. Avec ses doigts, quelle légèreté. Pâte de velours, je suis sensible à ses ourlets. Y'a que ses ciseaux qui m'apeurent. Ça plotte au point si par hasard il vient à me piquer. Le cœur meurtri, plein de désarroi, il me dit navré. Pardon ma sœur, si j'ai piqué votre dignité. Oh, 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 ben je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oh, quel tailleur. Pour mon costume, il m'a fait 17 essayages. Après, il était tellement fatigué qu'il est parti en vacances chez Monsieur Trigano, dans un village de Dante. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, toute façon, ça plaît à Jean-Loup. Pépé, 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 pétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, je sois le pilou à Jean-Loup.
C'était Pierre Provence, une chanson de 1965, Mister Pétale, et ça veut tout dire. Quand aujourd'hui les vanniers doivent se replier sur manger les pétales de rose, finalement, pour s'en sortir, quoi. Enlever les petits boules, machin. Bon. Et la vie n'est pas facile, hein. Bon, surtout quand on s'appelle Arsène. On va se quitter là. On se retrouve la prochaine semaine hebdomadaire 6 novembre où nous fêterons la Sainte Brique Fossoyeuse des sculpteurs. C'est historique. Et oui, évidemment. Et donc nous, on va vous laisser avec la bande continue, dite aussi bande passante de Radio Canut, concoctée par un certain nombre des animateurs de cette radio. Belle et néanmoins éclectique jusqu'à normalement 17h où vous retrouvez l'émission Intrinsèque, une émission autour de la chanson française dans tous ses états, et puis à 18h Grain de sable, l'émission d'attaque où aujourd'hui, eh bien, on va pas rigoler parce que ce sera sur le TAFTA, donc le fameux traité transatlantique actuellement en discussion et qui nous promet un très bel avenir pour la voiture de fonction. Et voilà, et ensuite à 19h, comme chaque jour de la semaine, vous trouvez le journal de Radio Canu. Et nous, on va vous laisser donc avec cette bande passante jusqu'à 17h. Allez, en attendant, qu'est-ce qu'on a dit? Tressez jusqu'à minuit, tressez, vaudrettes.
Je me suis retrouvé la tête coincée dans le bidet. Oh, quel méchant alors, j'avais mes deux petits poings cripsés. Si j'avais pu, je l'aurais griffé. Pétale, on m'appelle Mister Pétale. Espace, j'ai l'air d'une fleur pâle, de toute façon ça plaît à Jean-Loup. Pétale, on m'appelle Mister Pétale. Je crois que les gens sont fort jaloux, que je sois le pilou à Jean-Loup. Jaloux. Pour mes costumes, j'ai un petit tailleur épatant. Ces essayages, c'est du régal, ils durent longtemps. Avec ses doigts, quelle légèreté. Pâte de velours, je suis sensible à ses ourlets. Y a que ses...